dernier récit, et je vous dirai pourquoi, dans Actes chapitre 21, dans les livres des Actes des Apôtres, et au chapitre, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais chapitre 26. Actes chapitre 26, et nous allons lire les versets 9 à 18. Actes 26, les versets 9 à 18. Donc, Paul se trouve devant le roi Agrippa et il est en train de présenter sa défense. Et quelle meilleure défense, sinon, que de parler de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Donc, vous êtes tous, j'entends plus les feuilles tourner. Donc, Actes chapitre 26, et je commence au verset 9. Il dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu les pouvoirs des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est intéressant que Jésus dit « Je t'envoie pour que tu ouvres les yeux et qu'il passe de la lumière des ténèbres à la lumière. » Et Paul lui-même, lui qui était voyant, après cette expérience, sera aveugle. Mais en fait, il verra plus clair. Et c'est extraordinaire. Jésus avait ce même jeu avec les pharisiens. Et ici, Jésus, encore une fois, c'est le même pensée. Intéressant. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce passage, c'est justement ce verset 14. Ce verset 14, où Jésus dit à Saul, il dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Par cette parole, Jésus fait comprendre à Saul de Tarse, lui fait comprendre qui est maître. Il dit, tu es en train de te débattre comme un bœuf qui est dans l'attelage et qui doit tirer la charrue, mais qui n'a pas envie, et qui donne des coups de pied, qui se rue, qui va dans tous les sens, parce qu'il ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Et alors, l'agriculteur qui veut labourer son champ, eh bien, il a un aiguillon, une tige de fer pointue, et puis il pique pour le faire partir. Et plus il pique, plus le bœuf lui donne des coups de pied. Et c'est cette image-là que Jésus prend pour décrire l'état de Saul à ce moment-là. Il dit, toi, tu donnes des coups de pied dans tous les sens, tu es en train de casser le matériel, et tu ne fais rien. Mais il dit, il y en a un qui a l'aiguillon, et c'est lui qui aura le dernier mot. Il dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Il dit, tu peux y aller, hein, tant que tu veux, mais à la fin, c'est moi qui décide. Il dit, alors, c'est pas la peine de perdre ton temps, vaut mieux que tu abandonnes maintenant. Et c'est vous savez, et cette parole-là, finalement, elle n'est pas uniquement réservée pour Saul. Combien de personnes passent par cette étape-là, où on est là et on réagit, on se bat, on perd du temps, on s'épuise et tout cela, mais finalement, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et Dieu, Jésus, dans sa grâce, dit à Saul, il dit, Saul, tu sais, tu t'épuises et tu te débats et tu veux faire à ta tête, mais tu te rends la vie difficile. Tu te rends la vie difficile. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et c'est cette image-là, et par cette image, Jésus révèle à Saul, et puis il nous dit à nous, pour que nous puissions nous reconnaître, cette attitude qui est dans le cœur. Et finalement, la fureur de Saul dans la persécution des partisans de cette nouvelle voie, hein, celle de Jésus, eh bien, ne fait que refléter le combat qui est en lui. Finalement, il y a de la méchanceté, il y a des paroles, il y a de toutes sortes de choses, mais en fait, ce n'est qu'une expression de ce qui se passe dans son cœur. Et c'est dans cet état-là que se trouve Saul quand Jésus lui parle. Regardons un petit peu la nature des luttes, hein. Premièrement, la nature de la lutte qui se trouve dans le cœur de Saul, justement, à ce moment précis. Saul a grandi à Tarse dans une famille juive, et finalement, dans sa vie, il y a pas mal d'atouts qui lui sont favorables. Comme il dit dans Philippiens chapitre 3, si vous voulez regarder, là, il donne la liste de son, il donne son CV qui le recommande. En Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 6, il dit de lui, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, c'est pour ça qu'il s'appelle Shaoul. Hein. Le roi Saül était de la tribu de Benjamin, donc c'était honorable. Né hébreu, né d'hébreu. Il dit, mon père et ma mère étaient, je ne sais pas seulement ma mère ou seulement mon père. Il dit, quant à la loi, pharisien, les plus stricts. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il a dit que c'était des choses que je pouvais mettre en valeur, qui m'apportaient de l'assurance, qui m'apportaient de l'importance, qui m'apportaient de l'orgueil. Il dit que c'était des choses qui étaient importantes et j'avais tout de mon côté. En plus, il nous dit, dans Actes 22, verset 3, Saul dit, j'ai reçu mon éducation au pied du docteur de la loi, docteur en théologie, Gamaliel, à Jérusalem. Le plus honorable des docteurs de la loi, c'est, j'étais son disciple. Il dira dans son témoignage de Actes, chapitre 22. Regardez avec moi dans Actes, chapitre 6. Acte chapitre 6, donc ce jeune homme est peut-être arrivé à Jérusalem juste après Peut-être il a fait sa formation à Jérusalem et il est parti. Et donc il n'a pas connu Jésus personnellement, directement. Mais il est revenu juste après Pentecôte, il est revenu à Jérusalem, tout zélé. Et vous voyez, il y a ce jeune Étienne qui est là. Si je lis au verset 8, il dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. » Alors il dit qu'il y avait des Juifs de Cilicie. La Cilicie, c'est la province dans laquelle se trouvait Tarse. Donc, il y a de fortes chances que dans cette synagogue-là se trouvaient les Juifs de Tarse. Donc, certainement, Saul. Et si Saul était là, et si Étienne était là, il nous dit qu'il y a eu des discussions. Très certainement, Saul et Étienne ont été confrontés l'un à l'autre. Ce qui nous ajoute au verset 10, il dit « Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » C'est-à-dire Étienne. Donc si Saul était là, dans cette synagogue qui était pour ceux d'Asie mineure et de la province de Cilicie, à laquelle appartient Tarse, eh bien, Saul était confronté à Étienne et il nous dit que de ceux qui étaient là, personne ne pouvait répondre à la sagesse d'Étienne. Certainement qu'un jeune homme aussi orgueilleux que Saul de Tarse, qui avait toute l'éducation, de ne pas pouvoir répondre à Étienne, certainement ça l'irritait. Et il va peut-être même ne pas écouter les recommandations de Gamaliel. Pourtant, il dit qu'il est disciple de Gamaliel, qu'il était... Et vous savez ce que Gamaliel avait dit au chapitre 5, les versets 35 à 39, lorsque Gamaliel était confronté à Pierre et Jean. Gamaliel avait donné un conseil aux Juifs dans les versets 35 à 39. Donc c'est Gamaliel qui prend la parole et qui dit, puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis dans déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça, c'est le conseil de Gamaliel. À ces pharisiens, au Sanhédrin, ils avaient fait sortir Pierre et Jean, et puis il leur a dit, écoutez, il dit, il y a des autres qui sont venus, mais quand ils sont morts, c'est parti. Il y en a d'autres qui sont venus. Quand il est mort, c'est parti. Ici, il y a ces gens qui suivent Jésus, mais Jésus est mort, il est parti. Donc normalement, si ça vient des hommes, ça devrait mourir. Mais si ça continue, peut-être que ça vient de Dieu. Il dit, ne courez pas le risque d'aller contre Dieu. Saul avait entendu ce conseil, mais là, c'est Étienne, il ne le supporte plus. Il abandonne ce conseil. Et lui, le premier, va prendre l'initiative et finalement, Étienne sera lapidé. Et comme Saul, c'est le meneur, eh bien, c'est lui qui garde les vêtements pendant que les autres jettent les pierres. Mais Saul est là, il surveille que tout se passe bien et il entend ces paroles d'Étienne qui dit, finalement, les dernières paroles d'Étienne, Seigneur, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous imaginez, et là, qu'est-ce qu'il peut répondre, Paul, Saul, qu'est-ce qu'il va répondre à cela? Hein, c'était peut-être qu'avait-il entendu que Jésus avait dit la même chose. Il dit, comment on répond à un tel comportement? Et Saul est là, et comment réagir? Et la seule manière qu'il a pour répondre, c'est la brutalité. Vous savez, souvent, quand une personne est confrontée, ils ne savent pas comment répondre, ils ont deux choix. Soit admettre qu'ils ne savent pas répondre et ils s'en vont, ou bien, eh bien, ils répondent autrement, physiquement. Hein? Je ne peux pas répondre avec la bouche, eh bien, je répondrai autrement. Et j'aurai raison quand même. Hein? La force, parfois, essaye de donner raison. Et Saul réagit. Il fait ce qui est naturel, la nature humaine. C'est quand on ne peut plus répondre par l'intelligence, alors on répond par la violence. Et malheureusement, c'est trop caractéristique des êtres humains. Et ça se fait trop, même de nos jours. Hein, pourtant, on dit que les gens sont plus éduqués maintenant, mais ça ne change rien dans la nature de l'homme, n'est-ce pas? Et donc, il devient violent, et vous savez, la violence demande la violence, et il devient de plus en plus violent. Et donc, ce n'est pas étonnant que par la suite, lui qui avait tué, qui avait mis en prison, qui avait même maltraité les femmes, et dans la culture moyen-orientale, eh bien, c'est très grave. Et lui qui a pu arriver jusqu'à ce point-là, le jour où il comprend ce que Dieu a fait pour lui, lorsqu'il se voit vraiment, eh bien, je pense qu'il dira sincèrement, dans 1 Timothée, chapitre 1, dans 1 Timothée, chapitre 1, et au verset 13 et 15, verset 13, 1 Timothée 1, 13, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Voilà, il dit « Voilà ce que j'étais. » Et au verset 15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, c'est-à-dire le plus grand. » Et il a compris que, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu devenir? Moi qui étais parti en tant que jeune homme pour être pieux, pour aimer Dieu, pour mettre en pratique la loi, qu'est-ce que je suis devenu? Violent. Je savais. Et pourtant, je suis devenu persécuteur de la vérité. Lui qui était tellement zélé pour défendre la vérité, mais s'était complètement trompé. Et il se peut que Saul, dans ce chemin depuis Jérusalem jusqu'à Damas, il y a environ 250 kilomètres, et à l'époque 250 kilomètres, il fallait compter au moins 3 jours, hein. Et ça, c'est même si on a une monture. Et donc, il y avait le temps pour réfléchir. Et demande ce qui se passait dans sa tête pendant tout ce voyage. Et peut-être qu'il est en train de prendre conscience. Parce que je pense là pas parce que c'est écrit, mais c'est parce que Jésus savait pourquoi il lui parlait à un certain moment de ce voyage. Ce n'est pas un autre moment, c'est durant le voyage que Jésus lui parle. Donc ça veut dire que dans le cœur, ce que Jésus sait et ce que les autres ne savent pas, c'est que ça travaillait dedans. Et peut-être qu'il est là et en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis devenu? Moi qui devais être un jeune homme, j'aimais Dieu, je priais, j'étudiais la parole. Et puis voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de penser qu'une seule chose, c'est de persécuter, de maltraiter, de brutaliser des gens qui réagissent même pas, des gens qui ne répondent pas, des gens qui ne se battent pas. Comment est-ce que je suis pu arriver jusque-là? Et peut-être c'est en train de travailler dans son cœur, mais comment expliquer le comportement de ces disciples de Christ, et puis mon comportement, Et c'est en train de travailler dans son cœur, certainement. Lui qui avait réussi, d'un côté, avait réussi à devenir, être en tant que jeune homme déjà, parmi les plus pieux, un juif, un pharisien, dans sa jeunesse. Mais il y avait une chose qui le travaillait, qu'il l'avouera bien plus tard. Mais il y avait une chose qui le travaillait. Il faisait tout pour garder les commandements. Et devant les hommes, il pouvait dire, j'ai gardé tous les commandements. Il pouvait dire, je suis pharisien, je garde jusque dans le détail. Il payait la dîme même sur la menthe. Hein, vous allez au marché, vous avez le bouquet de persil là, et vous comptez combien de brins. Ah, il y a 20 brins, je donne 2 au Seigneur. Il était jusqu'à ce point-là. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui le travaillait. Regardez dans Romains. Romains, chapitre 7. Verset 7. Je vais lire verset 7. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Il dit, tous les 10 commandements, je les connais. Mais il dit, mais quand je suis arrivé au numéro 10, tu ne convoiteras point. Il dit là, je ne savais plus comment répondre. Parce que tu ne convoiteras point, ce n'est pas un acte. Quand c'est tu ne tueras point, ben on sait si on n'a pas tué. Quand c'est tu ne commettras point adultère, on sait si on a commis adultère ou pas. Quand c'est tu ne mentiras point, tu ne porteras point de faux témoignages, on le sait. Mais quand c'est tu ne convoiteras point, alors là, comment est-ce qu'on peut savoir si on est coupable ou non? Et finalement, à force de réfléchir, il se dit, mais avec tout ce que j'ai fait, mais je me sens quand même coupable de ce commandement-là. Et Jacques nous dit, si tu es coupable d'un commandement, tu es coupable de tous les commandements. Et finalement, même s'il avait l'apparence d'être un homme juste et qu'il gardait la loi, mais dans son cœur, il savait qu'il était pécheur. Il y avait une chose qui le travaillait quand même. Et puis en plus, il voit ce qu'il est en train de devenir. Vous savez, on dit, si c'est bon dedans, hein, si vous mettez du parfum dans une poubelle, la poubelle va sentir bon, n'est-ce pas? Et vous mettez des ordures dedans, ça va sentir comme les ordures. Finalement, ce n'est pas la poubelle qui sent mauvais, c'est ce qu'il y a dedans. Et si vous n'aimez pas la vie que vous menez, ce n'est pas votre corps, et ce n'est pas ni votre origine, ni votre nationalité qui est le problème, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et Saul commence à être confronté à cela. Il dit, ah, j'ai travaillé l'apparence, j'ai travaillé la forme, j'ai travaillé les gestes, la gestuelle, j'ai travaillé le langage, mais j'ai quand même le sentiment que ça sent mauvais. Et tout ça est en train de travailler dans son cœur. Mais la difficulté de Saul à ce moment-là, c'est que il est arrivé à un point où il ne peut plus s'arrêter tout seul. Vous savez, vous êtes déjà arrivé, vous vous mettez à courir sur une pente, et puis après, ça va trop vite, et les jambes ne suivent plus, et vous aimeriez bien que quelqu'un vous attrape, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous rattraper. C'est parti. Saul se trouve dans cette situation-là. Il est parti dans la violence, il ne peut pas s'arrêter. Et il a besoin d'une intervention extérieure pour l'arrêter. Et Dieu dans sa grâce, Jésus dans son amour, va tendre la main, il va l'attraper. Il dit, attends, oh, je te rattrape. Et c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ, celui qui a été manifesté, cet amour qui a été manifesté sur la croix, c'est l'amour qu'il a qui intervient dans la vie de ce Saul. Qui, est-ce qu'il est digne de la grâce? Absolument pas. Personne n'est digne de la grâce. Est-ce qu'il doit être récompensé par le bien? Ah non, non plus. C'est un homme violent, méchant. Il a forcé des gens à blasphémer Christ même. Il y a une tempête terrible dans son cœur. Seul Jésus le sait. Jésus qui est dans la gloire le sait. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Et peut-être vous le cachez très bien de tout le monde, même de votre partenaire. Mais sachez que Jésus le sait. Si Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de Saul de Tarse, il sait ce qui se passe dans votre cœur. Et ce n'est pas pour vous démolir qu'il le sait, c'est pour vous aider, c'est pour intervenir. Et Jésus, dans sa grâce, va intervenir dans la vie de Saul. Il va l'arrêter avec une lumière, il va le jeter par terre, mais c'est pour son bien. Et peut-être que vous vous souvenez le jour où vous avez reçu Jésus-Christ. Peut-être que vous étiez dans un état semblable. Vous savez, si Jésus s'est adressé à Saul à ce moment précis, ce n'est pas pour s'imposer contre la volonté de Saul, parce que Dieu ne s'impose contre la volonté de personne. Il respecte la volonté. Il nous a créé libre arbitre, capable de choisir, de rejeter Dieu comme de le recevoir, capable de le mettre de côté comme capable de l'appeler. Et Dieu le respecte. Bon, après, les conséquences, c'est lui qui décide. Mais sinon, pour ce que je fais aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent maudire Dieu, puis ils ont une santé meilleure que ceux qui sont croyants. Ça, c'est une grâce de Dieu. Il est capable de le faire. Hein? Si nous, on était Dieu, on ne ferait pas comme ça. Les gens qui sont gentils, on serait gentils. Ceux qui ne sont pas gentils, hein? On le ferait vite. Nous tous, ça nous est passé par l'idée. Pour moins que ça. Hein? Il suffit que quelqu'un nous coupe dans la circulation, il coupe devant, et puis on a des pensées pas possibles. Heureusement qu'on n'est pas tout puissant. On l'aurait mis en prison pour 25 ans. Mais là, Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Ce que nous savons, et Jésus l'a dit lui-même dans le sermon sur la montagne, il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que si Jésus s'est adressé à Saul à ce moment-là, c'est parce qu'au fond du cœur de Saul, il y avait quelque chose qu'il cherchait. Peut-être est-ce qu'il se demandait, dit, mais Jésus, mais est-ce que tu es vrai? Et dans 1 Corinthiens 15, verset 8, Paul dit que Jésus lui est apparu. Hein? Au même titre qu'il était apparu à Pierre et aux disciples et tout ça, quand vous lisez, il a dit, moi, le dernier à l'avorton, hein, tout en dernier, mais j'ai vu Christ. Ce n'est pas seulement une vision de lui. Je l'ai vu, il m'est apparu. Je l'ai vu directement. Je sais qui j'ai vu. Et très rapidement, il a la réponse. Et finalement, le timing est extraordinaire, qu'il suffit que Jésus se présente à lui et dise, je suis Jésus que tu persécutes. Et tout d'un coup, il y a transformation complète. Le timing est extraordinaire. Il n'y a pas à se battre, ce n'est pas le combat toute la nuit comme avec Jacob. C'est finalement, il a rendu service. Quand Jésus a apparu à Saul, il l'a délivré d'une lutte intérieure extraordinaire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le récit de la conversion du Sadhu Sundar Singh. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un témoignage inhabituel. Je vais vous lire juste un résumé, hein, juste quoi vous donner envie de lire. Sundar Singh est né le 3 septembre 1889 à Rampur, dans l'état de Patiala, au nord de l'Inde. Il appartient à la race des Sikhs. Il est le dernier fils de Sirdar Sher Singh, homme riche et considéré qui l'éleva dans le luxe et lui donna une solide instruction. Sa mère, qui est morte lorsqu'il avait 14 ans et pour qui il conserve un véritable culte, lui avait fait connaître les livres sacrés hindous, notamment le Bhagavad Gita et l'Adi Granth. À 16 ans, il connaissait les Upanishads et le Coran. Il fut mis en contact avec l'Évangile par des missionnaires presbytériens américains à l'école desquels il avait été envoyé. L'enseignement qu'il reçut l'a bouleversé tout ce qu'il avait appris jusqu'alors. Aussi lui fut-il dès l'abord profondément hostile. Il déchira et brûla une Bible qui lui avait été offerte. Mais le trouble persistait en lui. Il avait soif d'une certitude. Un soir de décembre 1904, il résolut de mettre un terme à ses luttes intérieures et de trouver la paix immédiatement ou dans la mort. Il se mit à prier dans sa chambre, décidé que s'il ne trouvait pas le repos du cœur, à mettre sa tête sur le rail du chemin de fer au fond du jardin paternel où l'express de Lundiana passait à 5 heures du matin. À 4h30, il vit une grande lumière et dans cette lumière la forme du Christ. Il entendit une voix qui lui disait « Jusqu'à quand me persécuteras-tu? Je suis mort pour toi, je suis le sauveur du monde. » Alors il comprit que le Christ est vivant. Pensée qui lui paraissait jusque-là inadmissible, et la paix entra en lui. Timing extraordinaire. Dieu apparaît, c'est parce que c'est le moment précis. La lutte est là, et la personne cherche et se révèle. Le Seigneur se révèle, et combien peuvent rendre témoignage. J'ai dit, Seigneur, si tu es vrai, montre-toi. Je ne sais pas comment, mais montre-toi à moi. Ce n'est pas toujours de cette manière-là qu'il va se montrer. Il se montre de diverses manières. Dieu ne manque pas d'idées et il le fait de manière personnelle pour chacun. Et soit par un événement, soit par une parole, soit par un sentiment, par un verset. Dit, je suis le Seigneur qui t'aime. C'est en disant cela, en se révélant à lui, c'est à ce moment-là précis que Jésus lui dit, tu sais, Saul, ce serait dur de regimber contre les aiguillons. Il dit, tu es en train de le faire, mais tu sais, comme tu te rends compte, c'est pas facile. C'est pas facile de résister Dieu. C'est pas facile de faire sa propre volonté. C'est pas facile de rejeter Dieu quand il nous désire. Et lorsque nous voyons ce témoignage de Saul, il dit le Seigneur a dit, je suis celui que tu persécutes. Alors, il y a une petite parole de consolation. Vous savez, personne ne vous fait du mal, personne ne vous fait du tort parce que vous appartenez à Christ sans que Jésus le ressente. Bon, si, comme dit Pierre, il dit, si vous êtes mal comporté, puis vous prenez, alors taisez-vous et encaissez. Hein, si c'est vous qui avez provoqué. Mais si c'est parce que vous appartenez à Christ, que vous êtes maltraité verbalement ou physiquement ou émotionnellement, vous êtes harcelé, il dit, sachez que Jésus le ressent. Il a dit à Saul, il a dit, c'est moi que tu persécutes. Et il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu sais, cette voix du Jésus de Nazareth, eh bien, je suis réellement ressuscité. Et je suis là. Celui que Étienne a dit, mais je vois le Fils de l'homme debout dans la gloire céleste. Il dit, tu l'as entendu, tu l'as lapidé parce qu'il a dit qu'il le voyait. C'est moi qu'il voyait. Je suis là, je suis réel. Jésus avait dit à son époque, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. je vous donnerai du repos. Saul, avec toute sa justice humaine, c'était un homme qui était fatigué et chargé. Jésus l'a su, et Jésus, dans sa grâce, a tendu la main. Et il a dit, ce que je te propose, donne-moi ton fardeau, et je te donne mon joug qui est doux. Et Saul a pris sur lui, ce jour-là, il a pris le joug de Jésus-Christ, et il l'a porté le reste de sa vie, et pour lui, c'était une libération. Et Philippiens chapitre 1, versets 21 à 25, il résume l'attitude qu'il avait dans sa vie, sa philosophie de la vie. Il la résume en quelques mots. Philippiens chapitre 1, versets 21 à 25, il dit « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Et dis-moi, je me suis réconcilié à Jésus. Oui, je l'avais persécuté. Maintenant, on est réconcilié. Il dit, maintenant, j'ai envie d'être avec lui. Mais puisque c'est encore utile, ben, je resterai sur terre. Il sait ce que ça représente. Pour lui, rester sur terre, ce n'était pas une station balnéaire. Il était en prison, là. Et il sait ce que ça... Mais il a dit, mais si ma présence sur terre est utile pour vous, ce n'est pas grave, je n'ai rien à perdre. Parce que ce qui m'attend, je l'aurai quand même. Vraiment, il avait changé de valeur. Il voyait les choses autrement. Il avait compris, il avait vécu combien il est dur de regimber contre les aiguillons du Seigneur. Et c'est pas la peine, c'est pas la peine de combattre contre le Seigneur et de faire la grève, vous faites tout ce que vous voulez contre Dieu. Il dit, quand vous serez fatigué, eh bien je serai là. Et on ira, on continuera. Comme une bête dans un attelage. Et il y a une transformation extraordinaire qui a suivi. Quand il s'est rendu compte que celui qui lui parlait des lieux célestes et qu'il était en train de le persécuter, il n'avait qu'un seul mot à dire. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Pensez à l'image du bœuf dans l'attelage, il y a la charrue, et il pique, il ne veut pas partir. Ça fait 2-3 heures qu'on est là en train de piquer, il ne veut pas partir finalement. Et à un moment, le bœuf, il dit, bon, d'accord, tu as gagné. On va où maintenant? Il dit, va tout droit. Je conduis. Et finalement, c'est ça, avec Paul. Mais vous savez, avec Paul, c'est comme ça. Mais combien de fois ça a été comme ça avec nous? Combien de fois on a donné des coups de pied dans tous les sens et puis il dit, bon, quand tu auras mal à la tête, quand tu auras mal aux pieds, pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un, il était en colère, il a donné un coup de pied dans le mur tellement fort, il s'est cassé le pied. Et finalement, ça n'a rien changé. Si le Seigneur dit, il te sera dur de regimber contre les aiguillons, parce que le maître reste maître. Et vous savez, et Jésus est fidèle à son principe. Parce qu'il avait dit à ses disciples, c'est vous qui serez mes témoins. Saul se trouve là en présence de Jésus. Il lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vas aller voir quelqu'un et c'est un homme qui va te dire. C'est pareil avec Corneille. Vous vous souvenez, Corneille, et puis il y a eu un ange. Il dit, mais moi, je ne peux pas te dire. Ce sont les hommes qui te donneront l'évangile. Ce n'est pas moi. Donc, tu iras voir Pierre. Ici, il dit, tu vas à Damas et je t'enverrai quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Vous savez, Jésus respecte son principe. C'est pas lui, ne cherchez pas de révélation directe de Jésus, il ne vous dira rien. Et les gens qui vous racontent, qui disent, moi j'ai reçu une révélation de Jésus, Jésus m'est apparu, il m'a dit ceci, ceci, dites, va te promener. Parce que Jésus a choisi le principe de passer par ses témoins. Il compte sur nous. Et il respecte ce principe. Et là, il était présent avec Pierre, il aurait pu, avec Paul, et puis Saul, il pouvait lui dire ce qu'il avait à dire. Mais il a dit, non, tu vas. Et alors, il dit, rentre à Damas. Et on éteint la lumière du ciel, on retrouve le soleil, qui fait un peu sombre par rapport à... Mais tout d'un coup, il est aveugle. Cet homme, Pierre, tout d'un coup, il est aveugle. Vous savez, un homme se trouve drôlement réduit quand tout d'un coup, il ne voit plus rien. Et il est obligé de se laisser mener par des personnes et on l'emmène. Et puis le Seigneur le laisse dans sa chambre 3 jours, rien. Une tête comme Saul, ça devait travailler. Ah, ça devait être un moulin. Il dit, le Seigneur dit à Ananias, il dit, écoute, va voir Saul, il prie. Oh là là. Il est là, il est en train de prier. Mais ça, c'est de la vraie prière. Parce que là, c'était le moulin entre lui et le Seigneur. Il est en train de revoir l'Écriture, en train de tout revoir, tous ces versets. Il dit, mais qu'est-ce que Étienne il disait? Ah oui, je me souviens de ce verset-là que Étienne disait. Je ne savais pas comment répondre. Ah, maintenant, je comprends. Et puis, qu'est-ce que c'est dit là? Et puis là, ça travaille. Et quand Ananias arrive finalement, eh bien, il dit, Saul, mon frère, c'est quelque chose, hein? Parce que peut-être qu'Ananias était le premier prisonnier que Saul allait prendre. Il était au courant en plus, parce qu'il a dit, Seigneur, mais tu, écoute, je sais que tu sais tout, mais tu sais, lui, il vient pour prendre les prisonniers. Je lui dis, oui, je sais. T'en fais pas, va le voir. Et il va le voir et dit, Saul, mon frère. Le Seigneur m'a envoyé, celui qui t'a apparu sur le chemin. Ah, vous savez, ça, c'est des miracles que seul Dieu peut faire. Miracle dans le cœur de Saul, mais miracle dans le cœur d'Ananias aussi. Et regardez dans Actes chapitre 9, les versets 17 à 19. Actes chapitre 9, versets 17 à 19. Dit Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva, il fut baptisé. Et dès qu'il eut pris la nourriture, les forces le revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Première chose, tu as rencontré le Seigneur, tu sais que tu l'as rencontré, tu es à lui. Eh bien, première chose, le Seigneur nous marque de son esprit. Il nous scelle de son esprit, ça, celui-là est à moi. Le Saint-Esprit est un sceau, c'est-à-dire c'est la marque qu'il met, qui lui appartient. Et puis après, il lui dit, mais aussi, tu vas être baptisé. C'est la chose normale aussi, si on a rencontré le Seigneur Jésus, c'est d'être baptisé. Si vous êtes appartenu au Seigneur, vous savez que vous appartenez, ben la chose normale, c'est d'être baptisé, d'obéir le Seigneur dans les baptêmes. Et ensuite, il a passé quelques jours avec les disciples, et certainement, il leur posait des questions. Il est en train de faire une éducation, une formation ultra rapide. Hein. C'est une formation théologique en 3 jours. Il a reçu assez pour que le verset suivant, il dise... Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Imaginez, Lui qui, il n'y a pas une semaine, il mettait à mort ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, là, il prêche dans les synagogues. Parce qu'à Damas, il y avait une grande communauté juive. Quelques années plus tard, en 66, lorsque Néron donne l'ordre de massacrer les juifs de Damas, il en tuera 10 000. Donc il y avait du monde là. Il y avait plusieurs grandes synagogues. Et Saul, c'est là qu'il commence. C'est là que sont ses débuts. Celui qui était le persécuteur deviendra le persécuté. Parce que peu de temps après, eh bien, il devra fuir Damas. On le mettra dans un corbeil, on le laissera descendre par-dessus le mur, la muraille extérieure. Et puis, il va partir dans la nuit. Le persécuteur devient le persécuté. Ah oui, mais un homme transformé. Un homme transformé. Et il dira à 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 24, voilà sa recommandation à ses chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 24, il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. Ce soir, il y a une Coupe du Monde. Il y a deux équipes là. Vous croyez qu'ils vont faire des efforts pour gagner? Et ils vont mettre tout ce qu'ils ont. C'est leur chance. Ni l'un ni l'autre des pays n'a déjà eu la Coupe. C'est leur opportunité. Paul dit, il dit, vous devez avoir ce zèle-là. Il dit, courez de manière à remporter le prix. De manière à ce que si on perd, on dit, mais il a perdu, mais il a bien joué. Courez de manière à remporter le prix. Est-ce que nous courons dans notre vie spirituelle de manière à remporter le prix? Ça, c'est la transformation qu'a eu cet homme. Avant, il avait commencé par la piété, la religion, était devenu violent. Jésus a pris cet homme violent, il a fait une œuvre en lui, c'est devenu un homme qui a porté la paix dans toute la partie orientale de la Méditerranée. L'œuvre de Dieu. Mais quand il a compris, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Peut-être ce matin, vous êtes en train de résister. Le Seigneur veut vous conduire. Le Seigneur veut quelque chose dans votre vie. Et vous résistez. Et vous croyez que vous pourrez résister assez longtemps. Et si c'est le Seigneur qui est en train de piquer, écoutez, il sera dur de résister aux aiguillons du Seigneur. Je termine avec ce verset dans le chapitre 22, Actes chapitre 22 et au verset 16. C'est ce témoignage de Saul par rapport à sa conversion. Je vais commencer à lire au verset 14. On va commencer au verset 12 carrément, voilà, 12, hein. Acte 22, 12, et je termine avec ça. Il dit, or un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Et au même instant je recouvrais la vue et je regardais. Et il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, c'est-à-dire Jésus, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi. Hein? Pourquoi tardes-tu? Lève-toi. Hein? C'est peut-être ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il dit, tu es en train de regimber, de résister. Il dit, te sera dur de regimber. Parce que le maître, c'est quand même moi. Il dit, Pourquoi tardes-tu? Lève-toi. Oh, peut-être que vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. Dites, non, je n'ai pas eu cette expérience-là. Eh bien, vous le cherchez, peut-être votre âme, c'est une tempête là-dedans. Dans votre cœur, c'est le questionnement. Demandez à Jésus. Lui, il a le temps. Il prendra le temps de toucher votre cœur. Si vous connaissez le Seigneur et vous résistez, vous êtes, eh bien, sachez qu'il aura le dernier mot. Il a le temps aussi. Il prendra le temps qu'il faut. Et on s'épuise, on se meurtrit, et finalement, il a le dernier mot. Parce qu'il est le maître. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et ça, c'est pas pour nous faire du mal, c'est une grâce de Dieu. C'était une grâce de Dieu de le piquer constamment jusqu'à ce qu'il se jette dans les bras de celui qui était mort pour lui. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour ce récit qui met en valeur ta grâce et ton amour. Si tu as pu pardonner un homme comme Saul de Tarse, tu peux pardonner n'importe lequel ici. Lui a considéré le fait de persécuter l'Église comme son plus grand crime et le pire des crimes. Et tu l'as pardonné parce que il agissait par ignorance. Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Peut-être que tu as besoin de faire comme pour Saul. Parfois, tu es obligé d'aveugler pour qu'on voit plus clair. Et parfois, tu es obligé de nous mettre dans des situations où on ne sait plus comment s'en sortir. On n'en voit plus d'issue. Et c'est dans ces conditions-là que parfois on est forcé de lever les yeux vers toi et de te voir. Seigneur, ce n'est pas parce que tu es dur, c'est parce que nous sommes durs. Toi, tu es plein d'amour et plein de miséricorde. Seigneur, ce matin, nous sommes rappelés qu'il est dur de régimber contre les aiguillons. Seigneur, ton amour est irrésistible. Donne-nous de répondre. Tu connais chaque cœur ce matin, tu connais quel est le besoin de chacun, et fais ton œuvre dans le cœur de chacun. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et à la gloire de Dieu. Amen. Je vous laisse quelques instants pour continuer cette prière et voyez celle qui convient à votre cœur. Restons dans la méditation.